Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Chaque mois, comme vous le savez, avec les archéologues de la ville de Chartres, nous découvrons une autre facette de l'histoire locale. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous présenter des fouilles et des découvertes récentes réalisées dans le quartier Babourg-Saint-Brice, au sein de l'église Saint-Martin-en-Val. Et pour en savoir plus, vous pourrez bien sûr lire l'article dédié dans le magazine Votre Ville de mai. Pour évoquer ce sujet aujourd'hui, avec moi, Émilie Porta. Bonjour Émilie.
Bonjour Julia.
Émilie est anthropologue au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Alors les fouilles de l'église Saint-Martin-en-Val ont débuté en 2013, Émilie, et elles ont permis d'étudier 18 sarcophages des 6e et 7e siècles. Et l'étude anthropologique que vous menez sur ces tombes permet d'observer des pratiques funéraires du début du Moyen-Âge. Alors Émilie, vous êtes anthropologue, quel est votre rôle en archéologie ?
Donc l'anthropologue, c'est celui qui étudie l'homme et son évolution. Donc en archéologie, il étudie les données biologiques et les conditions de vie des individus à partir du squelette. Il enregistre aussi les structures funéraires, quelles qu'elles soient, des tombes, des fosses communes ou des urnes cinéraires, la position des défunts et des ossements, mais aussi les objets associés, bijoux, vêtements ou monnaies. C'est-à-dire, en fait, tous les éléments qui lui permettent d'identifier les gestes effectués par les vivants pour les morts.
Donc en fait, vous étudiez donc à travers cela les rites funéraires et les pratiques.
Oui, les pratiques funéraires.
Et lors de la fouille, à quel moment intervenez-vous ?
Alors on intervient dès le départ sur le terrain. Les anthropologues sont des gens qui vont sur le terrain pour faire la fouille, mais aussi pour enregistrer les sépultures, pour prélever les restes humains. Donc en ce qui concerne cette église, je suis intervenue dès l'apparition des premières inhumations.
Et comment se poursuit ensuite le travail en laboratoire ?
Le travail en laboratoire se fait en plusieurs étapes. On va commencer par préparer les échantillons à analyser. Donc ça peut être pour le carbone 14, pour des analyses de sédiments, de pollen, de graines. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'étude purement biologique. Donc on va regarder le squelette en général, l'âge, le sexe, les pathologies éventuelles, son état sanitaire. Et puis on va faire ce qu'on appelle une étude taphonomique, c'est-à-dire étudier tout ce qui s'est passé dans la tombe entre le moment du dépôt, le moment où les vivants ont refermé le tombeau et le moment où nous on l'a ouvert. Et puis enfin, on pourra faire le lien, quand on a le retour des analyses, le lien entre nous, nos observations et notre étude et ce que donnent les résultats des analyses.
Alors justement d'ailleurs, pourquoi fouiller à l'intérieur de l'église Saint-Martin-en-Val ? Quel est l'objectif scientifique pour vous, anthropologue ?
Alors au départ, l'objectif de cette fouille n'était pas un objectif anthropologique, c'était de faire le lien avec le sanctuaire de Saint-Martin-en-Val, puisque l'église est dans l'enceinte du sanctuaire de Saint-Martin-en-Val. Après, il s'est trouvé qu'il y avait des sarcophages, et pour l'anthropologue, le but c'est de caractériser la population inhumée, et donc de faire une archéologie du geste, d'essayer de comprendre les gestes des vivants qui ont procédé à l'inhumation et à tous les rites funéraires.
Et ça, on reverra un petit peu tout au long de l'émission. Mais alors, juste Émilie, pour rappel, comment se sont organisées les fouilles depuis 5 ans ?
Ce sont des fouilles triennales. Donc au départ, c'était une fouille préventive et ensuite, c'est devenu une fouille programmée. C'est une fouille programmée propre qui a un calendrier triennal et on fouille entre 1 à 2 mois par an.
D'accord. Alors, pour rappeler, vous étiez dans une fouille préventive, peut-être parce qu'il y avait des travaux au sein de l'église, et maintenant, c'est venu un sujet d'étude récurrent dans ce qu'on appelle les fouilles programmées.
Oui.
Alors, avec Émilie, tout au long de l'émission, on va évoquer tour à tour ces pratiques funéraires anciennes au sein de l'église, puis on fera deux petites parties, deux focus spécifiques sur deux sarcophages d'enfants qui ont été découverts récemment, et ensuite deux sarcophages d'adultes qui, eux, étaient aussi restés intacts. Et on va comprendre pourquoi ça a une importance. Alors, où se situent, Émilie, les 18 sarcophages que vous avez fouillés au sein de l'église ?
Alors déjà, on a 18 sarcophages que nous avons fouillés, mais en fait, il y en a 21 en tout, puisqu'il y en a deux autres qu'on a vus, mais pas fouillés, mais on sait qu'ils sont vides. Et puis, il y en a encore un qui est scellé, qui est répertorié et qu'on n'a pas encore fouillé parce que ça sera l'occasion des fouilles ultérieures. Ces sarcophages, donc, ils sont dans l'église actuelle et ils sont situés sous la nef de l'église actuelle et probablement qu'il y en a ailleurs.
Et quel est du coup le lien entre ces sarcophages que vous nous avez annoncé datés entre le 6e et 7e siècle et cette église actuelle de Saint-Martin-en-Val ?
Alors ces sarcophages, ils sont déposés à l'intérieur d'un bâtiment dont les vestiges ont été mis au jour ces deux dernières années. Au départ, on ne savait pas trop s'ils étaient à l'extérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur. Maintenant, on sait que c'est à l'intérieur et que cet édifice pourrait correspondre à la première église de Saint-Martin-au-Val, qui est citée dans les textes du IXe siècle, à propos de la mise en sépulture en son sein de Saint-Lubin, qui est un des premiers évêques de Chartres, au milieu du VIe. Donc il s'agit en fait d'un des plus anciens édifices chrétiens découverts à Chartres.
Et à l'intérieur, donc, ces sarcophages.
Et ce bâtiment primitif, en fait, il est très probablement daté de la fin du Ve siècle, puisqu'on a deux sarcophages qui sont installés en même temps que cette église et dont la datation carbone 14 donne une datation plutôt fin Ve siècle. Et on sait qu'il y avait déjà des sarcophages avant l'installation de ce bâtiment primitif. Et puis, il y en a quelques-uns qui, cette année, justement, avec les analyses carbone 14 qui sont revenues, ont une datation un peu plus tardive, qui est plutôt 8e ou 9e siècle. Donc, il semblerait qu'il y ait des inhumations qui s'étalent un peu
dans le temps, sur plusieurs
siècles.
Dans le temps,
à cet endroit-là. Voilà. C'est à affiner par la suite.
Et ces sarcophages que vous avez là redécouverts, est-ce qu'ils sont intacts ?
Alors, ils ne sont pas tous intacts. Ils ont été souvent réutilisés, aussi rouverts pour plusieurs raisons, dès l'époque mérovingienne, puis pour la plupart au XIIIe, XVe siècle, ou lors de fouilles au XVIIe siècle, et enfin au XIXe siècle par M. Lecoq, un érudit local. Donc en fait, non, on en a quatre qui n'ont jamais été rouverts, mais ils peuvent être entièrement perturbé, soit parce qu'on est allé rechercher les objets qu'il y avait dedans, c'est pas forcément un pillage, ça peut être dès la période mérovingienne, on va rechercher le trésor de famille, soit ils peuvent être ouverts parce qu'on a voulu de façon volontaire inhumer quelqu'un dans ce sarcophage et on fait une réduction du premier, soit c'est de façon fortuite, on est tombé sur celui-là et du coup on l'utilise, c'est plus simple, ou alors on a affaire à de véritables pillages et on va chercher les objets.
D'accord, et qui était du coup courant de réouvrir, réutiliser ces sarcophages tout au long des siècles. C'est pas une nouveauté.
C'est extrêmement courant et en fait, pour la période, on ne voit pas la tombe faite pour l'éternité. Elle est conçue pour l'éternité, dans son architecture, elle est parfaitement scellée, mais ça ne dérange absolument pas, une fois la décomposition du corps effectuée, de venir l'ouvrir, de manipuler les ossements. Une fois les ossements secs, ça ne pose pas de problème, à condition qu'ils restent dans l'espace consacré. Ça ne pose pas de problème de les manipuler, de réutiliser, de rouvrir. Parfois même, on réduit les sarcophages, on les coupe en deux et on fait des réductions de sarcophages pour gagner de la place. Donc ça, c'est pas un problème une fois les ossements secs.
D'accord. Et quelle est l'incidence, pour vous, anthropologue, le fait de découvrir des sarcophages qui ont été ouverts plusieurs fois ?
Alors nous, ça complique beaucoup la tâche. Parce que du coup, au lieu d'avoir à étudier un individu qui serait décomposé sur place, on va essayer de comprendre tous les gestes de l'inhumation, il va d'abord falloir comprendre combien il y a eu d'individus, si celui que l'on voit en place est le premier occupant ou pas, et ensuite comprendre tout ce qui s'est passé dans la tombe et en lien avec les réouvertures. Donc ça complique beaucoup le raisonnement, mais c'est ce qui fait que c'est encore plus intéressant.
Une vraie enquête, en fait, pour comprendre justement les gestes des vivants, comme vous le disiez, au moment des funérailles et des manières de traiter les morts.
Et au sein de l'église, on a un sarcophage auquel je pense, on sait qu'il a été ouvert au moins trois fois.
D'accord. Et à l'inverse, comment se présentent les ossements pour vous dans votre travail quand le sarcophage est scellé ? Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que c'est mieux conservé ?
Alors, c'est plus facile pour les quatre sarcophages entièrement scellés. Ce qui est plus facile, c'est qu'on n'a pas besoin de fouiller. On ouvre le sarcophage et en règle générale, il n'y a pas de sédiments, sauf en quelques endroits s'il y avait des mini trous, des petites ouvertures, mais il n'y a quasiment pas besoin de fouiller. Donc, c'est plus facile parce qu'on fait les observations directement. En revanche, ce qui pose problème, c'est que dans ces sarcophages scellés, il y a un phénomène de réaction chimique qui s'appelle la bruchite. Et en fait, il y a dans certains milieux humides, clos, comme ces sarcophages-là, on a des cristaux qui se forment à l'intérieur des ossements et qui les font éclater. Donc, dans ces sarcophages, l'observation est plus facile. En revanche, les squelettes sont nettement moins bien conservés parce qu'ils n'ont pas eu de sédiments pour les préserver. Et donc, il faut faire absolument toutes les observations sur le terrain parce qu'au démontage, ça part en miettes totalement.
Donc du coup, pour vous, ça complique l'étude, mais néanmoins, est-ce que vous avez un premier aperçu de la population qui a pu être inhumée dans cette église
Oui,
dans cette église primitive
Pour l'instant, on n'a pas assez d'individus pour faire une vraie analyse qui tiendrait la route d'un point de vue statistique, mais je peux vous dire déjà qu'il y a des hommes, des femmes. Pour l'instant, il y a plus d'hommes que de femmes, mais il suffirait qu'on rajoute deux femmes pour les campagnes ultérieures et on rétablirait le ratio, donc on va pas s'amuser à dire, à en tirer des conclusions. Donc il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des adolescents, il y a des enfants, des jeunes enfants.
C'est ce qu'on va voir plus tard dans l'émission.
Ce qu'on verra plus tard. Et puis, il y a des hommes âgés, des femmes plus jeunes. Enfin, il y a une population un petit peu...
Très diverse.
Un peu de tout le monde, voilà. D'accord. Très diverse.
Alors, on va marquer une première pause musicale au sein de notre émission Histoire et mémoire. On se retrouve juste après avec Émilie pour poursuivre ses enquêtes anthropologiques au sein de l'église Saint-Martin au Val.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way.
Alors aujourd'hui, dans votre émission Histoire et mémoire, Émilie Porta, anthropologue au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Et nous parlons avec Émilie des découvertes de sarcophages médiévaux au sein de l'église Saint-Martin au Val, et notamment ceux de tout petits enfants. Alors Émilie, quels sont ces sarcophages ou quel était le premier sarcophage dont vous vouliez nous parler ?
Il s'agit d'un sarcophage qui a été fouillé il y a déjà deux campagnes maintenant, qui est un tout petit sarcophage de calcaire blanc de la période mérovingienne, plutôt 5e, 7e siècle. Il était encore parfaitement scellé et il contenait les restes d'un nourrisson décédé entre l'âge de 5 à 8 mois. Et l'intérêt de cette découverte, du coup, c'était de pouvoir renseigner sur les gestes funéraires qui accompagnent la mort des plus petits dans la haute société mérovingienne. Ce qui est extrêmement rare, c'est extrêmement rare de pouvoir les observer.
Et comment on sait que c'est un enfant de la haute société ?
Alors, on sait que c'est un enfant de la haute société mérovingienne parce que il est dans un espace réservé on sait maintenant que c'est un espace réservé à une élite locale. En fait, ils sont tous dans des sarcophages. Ils sont, pour certains, habillés, parés, avec des dépôts funéraires. Et ils sont dans ce bâtiment qui est consacré, qui est un bâtiment vraiment réservé à une élite. Et donc, cet enfant a été choisi pour être inhumé au milieu des adultes, pas du tout de côté. Et donc, on sait qu'il fait partie de cette élite locale.
Et ce bébé était-il déposé avec des objets ou des bijoux ou des vêtements particuliers que vous citiez ?
Alors, ce bébé était accompagné d'objets funéraires. Il avait un petit bracelet en métal au poignet gauche, des perles d'ambre à la hauteur de son épaule droite. Et on sait qu'elles sont connues pour leurs vertus prophylactiques, notamment pour faire baisser les fièvres qui peuvent être liées à la poussée dentaire. Il avait aussi des boucles d'oreilles en pâte de verre avec une attache de bronze déposée à la droite de sa tête. Alors, on sait maintenant, parce qu'on a eu le résultat des études, que à la fois par l'étude taphonomique que j'ai effectuée et à la fois par l'étude de cette attache et puis du tissu, qu'il avait très probablement une petite coiffe sur la tête qui laissait le visage à découvert, et sur cette coiffe étaient brodés beaucoup de fils d'or. Donc ces fils d'or, on les a trouvés sur place, on les a prélevés sur place, et c'était des petits fils d'or parfaitement martelés qui étaient brodés sur cette coiffe-là.
Est-ce que le fait de porter une coiffe, ça sera un signe, ça serait plutôt un bébé, un petit garçon ou une petite fille, où il n'y a pas de...
Il n'y a absolument aucune indication sur le sexe de l'enfant. L'indication que ça peut nous donner, éventuellement, il faudra y réfléchir encore, c'est que peut-être qu'il a été exposé, ou en tout cas mis à la vue de tous, un moment dont on ne connaît pas la durée, où on a pu voir son visage à découvert.
D'accord.
Et ces éléments, ils font l'objet donc d'études approfondies pour décrire plus précisément la nature des matériaux, leur provenance, leur datation et leur fréquence dans les tombes d'enfants. Et l'intérêt de cette découverte, c'est que non seulement c'est extrêmement rare de voir un enfant de la période mérovingienne dans un petit sarcophage au milieu des adultes, et encore plus rare de le voir avec ce mobilier associé.
Et est-ce que, du coup, vous en avez découvert davantage avec cette ouverture de sarcophage et sur l'inhumation des tout petits enfants? Est-ce qu'il y a une pratique particulière?
Oui, alors ce qu'on a découvert, parce que les analyses sont revenues il y a très peu de temps maintenant, entre autres, c'est qu'il y a probablement une pratique de l'embaumement. Et ça, c'est aussi assez inédit pour la période mérovingienne. On a souvent lu dans la littérature qu'on avait oublié les pratiques des Égyptiens et qu'on le retrouvait plutôt pour la fin du Moyen-Âge. Or, on a trouvé, avec des analyses des composés chimiques du sédiment, des traces d'un baume cosmétique. Alors, on sait que c'est à base de cire d'abeille, d'épices, de vinaigre, et qui en fait, mettent en évidence très probablement un baume qui a été préparé pour embaumer en tout cas le corps d'un point de vue externe. Et la question maintenant, d'accord, ça va être de savoir si on peut l'utiliser aussi d'un point de vue interne. On sait aussi qu'il y avait des composés dedans qui restent encore à identifier de façon certaine, des composés olfactifs comme peut-être de la myrrhe, du clou de girofle ou de l'anis. Et visiblement en tout cas, c'est qu'il y avait une très bonne connaissance de la préservation des corps, ce qui est une découverte par rapport à l'historiographie traditionnelle. Et est-ce que c'est une base identique au baume égyptien ou est-ce que c'est une adaptation de ce mélange? Donc on est en train de pousser les études pour comprendre. En tout cas, il y avait au moins un masque d'apparat et de préservation des tissus extérieurs.
Donc une découverte fabuleuse, parce que là, on ne s'attendait pas à ce type de... Enfin, en tout cas, vous ne vous attendiez pas du tout à cette pratique et à ce type... Vous n'aviez jamais constaté d'embaumement, en tout cas à Chartres.
Non. Alors, on a fait faire les analyses parce qu'on se posait la question de se dire... Il y a beaucoup de choses qui, par l'analyse biologique et taphonomique, nous montrent qu'il y avait des expositions de corps. Ils étaient mis en scène, ça on le sait. Et s'ils sont mis en scène un certain temps, il faut quand même que la décomposition soit stoppée ou retardée de quelques jours. Et c'était l'intérêt de ces analyses, c'était d'essayer de voir s'il n'y avait pas eu un embaumement.
Et pourquoi présente-t-on ces jeunes défunts? Est-ce qu'il y a un intérêt? C'est vraiment dans une pratique de recueillement?
Ça fait partie de mise en scène de funérailles grandioses qu'on a pour l'époque mérovingienne, où le but c'est d'asseoir un peu un pouvoir, de mettre en scène le mort et les inhumants à travers ces funérailles grandioses qui vont ensuite un petit peu s'éteindre par la suite, mais on va en reparler.
Et du coup, vous avez redécouvert tout récemment un autre petit sarcophage. Il vient d'être ouvert, je crois, en mars dernier. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Émilie ?
Oui, alors le petit sarcophage qu'on a découvert a été mis en terre entre le 6e et le 7e siècle. Il était préservé de tout pillage ou de dégradation et il contient les restes d'un jeune enfant dont l'âge pour l'instant est estimé entre 1 an à 1 an et demi. Donc il est un petit peu plus âgé. Et les études à venir sur le squelette et les sédiments, on va faire les mêmes études, hein, permettront de comprendre ses pratiques funéraires et le traitement des morts au Moyen-Âge. Alors il n'a pas de mobilier déposé avec lui. En revanche, il y a beaucoup de matière organique préservée. Donc on a fait de la même façon, et encore, on a essayé de pousser encore un peu plus l'analyse. On a prélevé tous les sédiments en faisant une grille, en fait, dans le sarcophage. Et on va essayer, donc on fait toujours des analyses palynologiques, donc pour voir s'il y a des pollens. On regarde s'il y a du tissu, on regarde s'il y a des insectes, mais on va ensuite, pour travailler sur cette problématique de l'embaumement, regarder donc les composés chimiques et puis essayer de mettre en évidence un gradient pour essayer de comprendre s'il y a un embaumement externe uniquement ou interne aussi, à condition que celui-ci ait été embaumé, bien sûr.
Donc, affaire à suivre, en tout cas, pour ce deuxième petit enfant. Alors, nous avions là donc l'exemple de sarcophage scellé. Nous avons eu la chance d'en étudier d'autres, notamment très récemment. On va en reparler juste après la petite pause musicale. In constant sorrow. Avec Émilie Porta aujourd'hui dans votre émission Histoire et Mémoire, Émilie est anthropologue au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres et nous évoquons aujourd'hui les pratiques funéraires médiévales. En effet, Émilie a étudié plusieurs sarcophages au sein de l'église Saint-Martin-en-Val. Alors on vient de parler des sarcophages d'enfants, mais là Émilie, vous avez réalisé récemment des observations de sarcophages adultes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors on a eu deux sarcophages entièrement scellés d'adultes à côté de ces sarcophages d'enfants. enfants. L'un était celui d'une jeune femme autour de 30, 40, 40 ans à peu près, qui n'avait pas d'objet associé, qui a fait l'objet des mêmes études que celles qui ont été faites pour les enfants et qui ont mis en évidence aussi un embaumement. La composition chimique du baume était un petit peu différente, mais c'est exactement la même chose. Et celui qu'on a découvert cette année concerne un individu masculin, âgé, assez âgé même, et pour lequel on va faire les mêmes analyses. Il y a énormément de matière organique préservée, plus encore que pour le précédent. Et donc on sait qu'il y a des choses, il y a probablement des restes de cuir ou de tissu. Et la chose intéressante de cette année, c'est qu'il y a beaucoup de restes d'insectes, donc des pupes de mouches. Et ça, on va pouvoir faire une étude en entomologie pour essayer de comprendre le temps d'exposition du cadavre, si on y arrive.
Puisqu'effectivement, ces insectes sont indices pour vous pour comprendre tout cela.
Ils ont un cycle de ponte qu'on peut connaître. Il faut identifier ces insectes. Et en fonction du cycle de ponte, on arrive à connaître la saison, peut-être de la mort, et le temps d'accès au cadavre par ces mouches.
Car comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des rites, et notamment on expose ces morts. Est-ce que là, du coup, vous en tirez des conclusions générales sur les pratiques funéraires au tout début de cette période médiévale?
Comme c'est la première fois qu'on a un sarcophage qui nous livre des pupes de mouches, on va justement pouvoir essayer de travailler sur ce temps d'exposition et approfondir notre connaissance sur les funérailles à l'époque mérovingienne à Chartres.
Et est-ce qu'il y a d'autres indices, par exemple sur l'habillement ou sur les objets qui pouvaient être associés sur ces funérailles en général au sein de l'église?
Alors, à partir de ces deux sarcophages, je vous dirais que non, puisqu'ils n'ont pas de mobilier associé, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient tout nus, puisque par l'analyse taphonomique, on peut arriver à voir qu'il y avait probablement des vêtements, il y en a même un qui avait peut-être même des chaussures, mais ils avaient un habillement, mais qui ne laisse pas de traces matérielles. Donc c'est du tissu qui n'est pas fermé par des... Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de choses comme ça, mais on arrive quand même à voir ce qu'ils pouvaient avoir.
Donc, peut-être plus un linceul alors, ou quelque chose de léger?
Ça peut être quelque chose de plus léger.
D'accord. Et quelle est l'élite qui est enterrée ici?
Alors, quelle est cette élite? On n'en sait rien. On sait que c'est probablement donc une élite laïque, puisqu'il y a des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants. On sait que c'est une élite de par le lieu dans lequel elle est inhumée, mais aussi le mobilier qui a été associé, pas toujours, comme on peut le voir, mais très souvent. Et on sait que ça correspond probablement à une volonté de marquer le pouvoir d'une élite locale sur la terre, enfin sur cet endroit en particulier, avec l'aide de l'Église, qui s'en sert aussi pour petit à petit avoir la main mise sur les rites funéraires. Et on est encore dans ce moment entre rites païens, rites chrétiens, où les deux cohabitent sans problème particulier, les deux pouvoirs cohabitent, et où on a ce qui compte, c'est pas vraiment l'inhumation qui compte, et donc on a beaucoup de gestes qu'on va dire païens, comme des dépôts dans la tombe. Et petit à petit, une fois que ce pouvoir local est assis, qu'on n'a plus besoin de montrer sa richesse à tout le monde avec des funérailles grandioses, ça va s'arrêter un petit peu. Et l'Église a de plus en plus la main sur ces funérailles. Et on va avoir de moins en moins, et voire plus du tout, de mobilier dans la tombe, puisque là, il faut plutôt arriver nu au jour du jugement dernier. Et on sait que ça correspond à une autre période en ce qui concerne les rites funéraires.
Merci beaucoup, Émilie, en tout cas, pour cette présentation des dernières découvertes au sein de l'église Saint-Martin-en-Val. Alors, bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site internet de Radio Grand Ciel dans la rubrique « Histoire et mémoire ». Pour mémoire, l'article en lien avec l'émission est lisible dans le magazine « Votre ville » de mai. On se retrouve le mois prochain avec un autre archéologue de la ville de Chartres pour une nouvelle émission d'Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. À bientôt.
Merci à vous.